Bonjour chers amis, c'est Pierre qui vous accueille ce samedi 1er mai. Le sutra des quatre établissements de l'attention est un texte fondamental pour l'enseignement de la pratique de la méditation. Depuis 2500 ans, le sutra des quatre établissements de l'attention a été étudié, pratiqué et transmis de génération en génération avec un soin particulier. Les quatre méthodes d'attention décrites dans le sutra sont l'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit et l'attention aux objets de l'esprit, ce qu'on appelle en sanskrit les dharmas. Dans l'établissement de l'attention fondée sur le corps, le pratiquant est pleinement conscient du souffle, des positions du corps, des actes du corps, des différentes parties du corps, des quatre éléments formant le corps et de la décomposition du corps devenu cadavre. Dans l'établissement de l'attention fondée sur les sensations, le pratiquant est pleinement conscient des sensations agréables, désagréables et neutres, à mesure qu'elles apparaissent, durent et disparaissent. Il est conscient des sensations ayant une base psychologique et des sensations ayant une base physiologique. Dans l'établissement de l'attention fondée sur l'esprit, le pratiquant est pleinement conscient des états d'esprit tels que le désir, la haine, la confusion, la concentration, la dispersion, les formations mentales et la libération. Et dans l'établissement de l'attention fondée sur les objets de l'esprit, le pratiquant est pleinement conscient des cinq agrégats qui composent une personne. D'après le bouddhisme, les cinq agrégats sont la forme, c'est-à-dire le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Donc le pratiquant est pleinement conscient des cinq agrégats. Il est conscient des organes des sens et de leurs objets, des facteurs pouvant obstruer la compréhension et la libération, des facteurs pouvant mener à l'éveil, et des quatre nobles vérités concernant la souffrance et la libération de la souffrance. Thich Nhat Hanh écrit un bouquin vraiment important qui s'appelle « Transformation et guérison », qui est où il nous redonne le sutra des quatre établissements de l'attention en entier, et il en livre un commentaire avec des espèces d'exercices, une vingtaine d'exercices qui peuvent vraiment nous aider à méditer pleinement sur les quatre établissements de l'attention. Et donc, je vous propose une méditation basée d'abord sur la reconnaissance d'une sensation de souffrance. Et puis après, je vous lirai le texte de Thaï, qui est un peu une espèce d'exercice, ou un commentaire plutôt, sur cet établissement de l'attention. Je vous invite à vous asseoir en posture, en trouvant la position qui vous convient, bien droite, digne sans raideur, et de vous concentrer progressivement sur votre respiration. J'inspire, je prends pleinement conscience de mon corps. J'expire, je souris à mon corps. Conscience du corps, sourire au corps. J'inspire, je prends conscience d'une souffrance dans mon corps. J'expire, je souris à cette souffrance dans mon corps. Conscience de la souffrance, sourire à la souffrance. J'inspire, je vois les racines de ma souffrance dans mon corps. J'expire, je souris aux racines de ma souffrance dans mon corps. Racine de la souffrance, sourire aux racines de la souffrance. J'inspire, je prends conscience de ce qui se passe dans mon esprit. J'expire, je souris à ce qui se passe dans mon esprit. Conscience de l'esprit, sourire à ce qui se passe dans l'esprit. J'inspire, je prends conscience d'une souffrance dans mon esprit. J'expire, je souris à cette souffrance dans mon esprit. Conscience de la souffrance dans l'esprit, sourire à la souffrance dans l'esprit. J'inspire. Je vois les racines de la souffrance dans mon esprit. J'expire. Je souris aux racines de la souffrance dans mon esprit. Racines de la souffrance dans l'esprit. Sourire aux racines de la souffrance. J'inspire. Je sais que la souffrance est encore présente. J'expire. Je sais que la souffrance est moi-même. Et je sais que l'attention est aussi moi-même. Souffrance présente. Souffrance et attention sont moi-même. En inspirant, je sais que je peux m'occuper de cette souffrance. En expirant, j'apaise ma souffrance. Je peux gérer ma souffrance, je peux m'apaiser. Voilà, la méditation guidée est terminée. Et donc, je me propose de vous lire un extrait, un court extrait de Transformation et guérison. Donc, le Thaï Thich Nhat Hanh a inclus, on pourrait dire, 20 contemplations qui sont liées à la vie quotidienne. Et donc, ces commentaires sur le sutra nous indiquent comment traiter la colère, la jalousie et des traumatismes. Comment cultiver les plus belles qualités de ceux avec qui nous vivons? Comment accueillir avec sagesse et compassion notre propre mort et celle des personnes aimées? Donc, Thaï intitule cette 18e contemplation « Transformer les formations mentales réprimées ». Donc, Thaï commence par reprendre un court extrait du sutra. Donc voilà, maintenant c'est le Bouddha qui parle. Le pratiquant, la pratiquante, est conscient, consciente des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, du corps, de l'esprit. Est conscient de la forme, du son, de l'odeur, du goût, du toucher, des objets de l'esprit. Et il est conscient des formations mentales qui sont produites en dépendance de ces deux choses. Il est conscient de la naissance d'une nouvelle formation interne mental est conscient d'abandonner une formation interne déjà produite, et quand une formation déjà abandonnée ne réapparaîtra plus, il en est conscient. Et Thaï maintenant parle. Cet exercice vise à nous mettre en contact avec les formations internes enfouies et réprimées en nous et à les transformer. Depuis longtemps, des formations internes de désir, de colère, de peur, de dévalorisation personnelle et de regret ont été refoulées dans notre subconscient. Bien que refoulées, elles cherchent toujours à se manifester dans nos sensations, nos pensées, nos paroles et nos actes. Observer nos formations internes quand elles apparaissent en tant que sensations à la surface de la conscience nous est relativement facile. Mais la manifestation dans l'esprit conscient des formations internes réprimées ne peut être directe et naturelle. Elle ne se révèle qu'indirectement. Nous ne sommes donc pas conscients de leur présence, bien qu'elle continue subrepticement à nous ligoter et à nous faire souffrir. Qu'est-ce qui les réprime? Qu'est-ce qui les empêche d'apparaître? Notre esprit conscient, notre esprit raisonnant. Nous savons que nos désirs et notre colère ne sont pas totalement acceptables pour la société et pour notre propre esprit raisonnant. Nous avons donc trouvé un moyen de les réprimer, de les repousser dans des coins reculés de notre conscience afin de pouvoir les oublier. C'est l'œuvre d'une formation mentale qui s'appelle la faculté d'oubli. La psychologie contemporaine comprend bien le phénomène du refoulement. Nous voulons éviter la souffrance. Des mécanismes intérieurs de défense repoussent alors dans l'inconscient nos douleurs, nos conflits psychologiques et nos désirs inacceptables pour que nous puissions nous sentir davantage en paix avec nous-mêmes. Mais nos émotions, depuis longtemps refoulées, cherchent toujours à se manifester en tant que paroles, images et comportements inacceptables pour la société, et peuvent même évoluer plus tard en symptômes de maladies physiques ou psychologiques. Peut-être savons-nous que nos paroles, pensées ou comportements sont destructeurs, mais nous n'arrivons pas à y remédier parce que nos formations internes sont trop fortes. Prenons par exemple le cas d'une fille qui désire se marier, ce qui signifie qu'elle doit laisser sa mère vivre ensuite seule, et d'autre part, ne voulant pas la laisser seule. Elle comprend sa mère et l'aime, mais elle souhaite aussi se marier et vivre avec celui qu'elle aime. Cependant, elle ne peut supporter la pensée de laisser seule sa mère malade qui a besoin de l'assistance d'une personne. Ses désirs et sentiments contradictoires provoquent en elle un conflit intérieur. Son mécanisme de défense refoule alors la douleur du conflit dans son inconscient et lui dicte de consacrer sa vie à aider sa mère. Néanmoins, son désir de se marier persiste et le conflit psychologique demeure une formation interne cherchant à se manifester. Elle devient irritable, elle dit des choses dont elle-même ne comprend pas la raison, elle fait des rêves incompréhensibles. Elle n'est pas heureuse, et sa mère ne peut donc pas l'être non plus. En fait, sa mère est hantée depuis des années par la crainte de voir sa fille la quitter pour se marier. C'est ce facteur psychologique qui l'a fait inopinément tomber malade et s'affaiblir, bien qu'elle n'en ait pas conscience. Elle a été très contente en entendant sa fille lui dire qu'elle n'allait pas se marier, mais au fond de son cœur, elle souffre en sachant qu'elle empêche sa fille de faire ce qu'elle veut. Ce conflit devient en la mère une formation interne qui la fait souffrir et elle aussi devient irritable. Elle aussi dit des choses qu'elle ne comprend pas. Elle aussi a des rêves qu'elle ne comprend pas et fait des choses sans savoir pourquoi. Ni la mère ni la fille ne sont heureuses et toutes deux continuent à souffrir. La méthode permettant de guérir la douleur engendrée par des formations internes refoulées est leur profonde observation. Mais pour les observer, nous devons d'abord trouver comment les amener dans le champ de l'esprit conscient. La méthode du sutra, des quatre établissements de l'attention, consiste à pratiquer la respiration consciente pour reconnaître en nos sensations, pensées, paroles et actions, particulièrement celles qui surgissent automatiquement, des réactions à une situation. Nos réactions ont peut-être leur racine dans les formations internes enfouies en nous. Quand nous sommes conscients de ce que nous ressentons, pensons et faisons, nous pouvons nous poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise quand j'entends quelqu'un dire telle chose? Pourquoi est-ce que je pense toujours à ma mère en voyant cette femme? Pourquoi lui ai-je dit cela? Pourquoi n'ai-je pas aimé ce personnage dans le film? Qui ai-je détesté dans le passé qui ressemble à cette personne qui est maintenant en face de moi? Ces pratiques peuvent nous aider à découvrir les racines de nos sensations, pensées, paroles et comportements, et à amener progressivement dans le champ de l'esprit conscient les formations internes enfouies. Pendant la méditation assise, comme nous avons fermé les portes d'entrée de nos données sensorielles pour arrêter d'écouter, de regarder et de raisonner, les formations internes enfouies ont l'occasion de se révéler sous forme de sensations ou d'images qui se manifestent dans notre esprit conscient. Au début, il n'y aura peut-être qu'une sensation d'anxiété, de peur ou de malaise dont nous ne pouvons voir la cause. Nous devons l'éclairer de la lumière de l'attention et être prêts à la voir. Quand cette sensation commence à se dévoiler et à prendre de la force, à s'intensifier, nous sentirons peut-être qu'elle nous dérobe toute notre paix, notre joie et notre bien-être. Nous voudrons peut-être déplacer l'attention vers un autre objet de méditation. Nous voudrons peut-être ne pas continuer la méditation, disant que nous avons sommeil et que nous préférons méditer à un autre moment. La psychologie moderne appelle ce phénomène résistance. Tout au fond, nous avons peur d'amener à la conscience les sensations désagréables enfouies, car elles nous feront souffrir. Certains pratiquent la méditation assise durant des heures chaque jour, mais n'osent pas vraiment faire face à leurs sensations de douleur et à les accueillir. Pensant à tort qu'elles ne sont pas importantes, ils consacrent leur attention à d'autres sujets de méditation. La permanence, l'absence d'un soi, le son du battement d'une seule main ou la raison de la venue de Bodhidharma en Occident. Il ne s'agit pas ici de suggérer que ces questions sont sans importance, mais pour constituer d'authentiques sujets de pratique de la méditation, elles devraient être considérées à la lumière de nos vrais problèmes. Dans le bouddhisme, nous ne pratiquons pas la méditation pour réprimer nos sensations, mais comme moyen de veiller sur elles, d'être leur garde avec un soin affectueux, sans violence. Quand nous pouvons maintenir l'attention consciente, nous ne sommes pas submergés par nos sensations, ni noyés dans nos conflits intérieurs. Nourrissant et maintenant l'attention consciente par la respiration consciente, nous essayons de prendre conscience de nos formations internes et de nos conflits à mesure qu'ils se manifestent. Nous les recevons avec amour, comme une mère prend son enfant dans ses bras. L'attention consciente est présente et je sais que j'ai assez de force pour être en contact avec mes nœuds intérieurs. Dans cet environnement, nos formations internes se manifesteront dans l'esprit en tant que sensations et images avec lesquelles nous pourrons pleinement et profondément être en contact et que nous pourrons identifier. Sans nous juger, blâmer ou critiquer d'avoir ces sensations ou ces images. Nous les observons, nous les identifions et nous les acceptons afin de voir leur source et leur vraie nature. S'il y a douleur, nous ressentons la douleur. S'il y a tristesse, nous sommes tristes. S'il y a colère, alors nous sommes en colère, mais notre colère s'accompagne d'attention. Au lieu de nous perdre dans la douleur, la tristesse ou la colère, nous les calmons. Même si nous n'avons pas vu les racines des formations internes, le fait de savoir accueillir avec attention notre douleur, notre tristesse et notre colère affaiblit déjà quelque peu nos nœuds intérieurs. Grâce à cette observation vigilante, nous verrons finalement leurs racines et nous les transformerons. L'enseignement du sutra des quatre établissements de l'attention, montrant comment être en contact direct avec nos sensations et les inviter à se manifester à la surface de la conscience, est d'une remarquable efficacité. Le pratiquant peut travailler sur des formations internes difficiles avec l'aide d'un maître ou d'un autre pratiquant. Par leur observation attentive, le maître et les compagnons de pratique pourront l'aider à déceler les manifestations des formations internes profondément enfouies dans sa conscience. Durant sa vie, le Bouddha fut célébré comme le roi des médecins et il aida des milliers de gens à soigner des problèmes mentaux. Les pratiquants de l'observation attentive peuvent apprendre la méthode bouddhique pour soigner des formations internes afin de s'aider eux-mêmes et aider les autres. Beaucoup de personnes vivent sans pratiquer l'attention et ne savent comment transformer les formations internes. Celles-ci se renforcent alors avec le temps, mènent à l'agitation, l'anxiété et la dépression qui s'expriment dans des paroles et des comportements difficilement acceptés par la société. Les personnes possédant de fortes formations internes ont du mal à communiquer et à travailler avec les autres. Ces difficultés leur donnent un sentiment croissant d'échec dans la société. À mesure que leurs formations internes augmentent, leur comportement devient de plus en plus inapproprié. Et finalement, la pression peut devenir si forte qu'elles seront contraintes de quitter leur emploi ou d'abandonner leur mariage. Si nous savons comment vivre chaque instant en éveil, nous serons conscients de ce qui se passe dans nos sensations et nos perceptions du moment présent, et nous ne laisserons pas de formation interne se nouer trop étroitement dans la conscience. En sachant observer nos sensations, nous pouvons trouver les causes de formations internes très anciennes et les transformer. Voilà, chers amis, il ne vous aura pas échappé que je vous recommande chaudement la lecture de Transformation et guérison, plutôt par extrait parce que c'est assez dense, et donc voilà, je vous recommande cette lecture. Je vais donner un son de cloche et je vous invite à sortir de la posture et à vous détendre, à vous masser, à vous étirer. Et puis au deuxième son de cloche, je vous invite à vous lever. Et au troisième son de cloche, nous nous saluerons avant de nous quitter. Voilà, donc, massez-vous, étirez-vous, prenez soin de votre corps. Je vous invite à vous lever. Et je vous invite à pratiquer le salut entre nous et à saluer également toutes les personnes pour lesquels vous avez une attention particulière. Bonne semaine à tous.